Alors, bonjour tout le monde. Nous revoilà à nouveau dans cette dernière partie pour notre vidéo de formation Code d'honneur pour acheteurs, où nous allons voir en particulier dans cette partie de la vidéo les 5 étapes importantes pour réussir une négociation que j'appelle gagnante-gagnante. D'ailleurs, une théorie qui a été développée, qui a été analysée, qui a été enseignée hein, quand on parle de la stratégie gagnante-gagnante. Donc, c'est la dernière partie de notre vidéo, une partie quand même importante hein, quand on veut représenter nos acheteurs. Et je vous propose de la partager avec vous, comme je vous le mentionnais, en 5 étapes. La première, on va vous recommander de pouvoir, bien entendu, préparer votre dossier. Très important de préparer votre dossier avant d'aller vous présenter pour négocier votre promesse d'achat, pour présenter votre promesse d'achat, parce que préparer votre dossier et vous renseigner, je m'excuse, sur les données fondamentales représente la moitié de l'objectif d'une négociation réussie. Alors, quand on parle de préparer votre dossier, et ici, là, il y a une petite lumière qui allume en arrière pour vous rappeler qu'on a toujours besoin de votre guide du participant hein, qu'on a en bas de la vidéo. Donc, ne pas oublier votre guide du participant pour cette dernière partie, prendre des notes. Et je reviens dans la première étape de la négociation gagnante-gagnante, qui est de préparer adéquatement votre dossier. Et je vous donne quelques particularités quand on parle de préparer son dossier. Donc, je suis avec vous la présentation. Alors, on parle aussi en premier, quand on parle de préparer son dossier, c'est d'identifier ce qui motive ou ce qui a motivé la décision de vos acheteurs à choisir cette propriété, mais aussi qu'est-ce qui motive les vendeurs, parce que vous vous souvenez, hein, vous avez pris un rendez-vous, vous avez parlé avec le courtier inscripteur, vous avez posé quelques questions sur le propriétaire-vendeur, en l'occurrence, qu'est-ce qui motive sa décision de vouloir vendre, et vous avez suivi le processus de vos acheteurs, vous avez été capable d'observer qu'est-ce qui a motivé la décision de vos acheteurs à vouloir s'arrêter à faire une offre d'achat sur la propriété, et ça pourrait être pertinent à un moment donné, durant votre présentation, de venir justement parler, échanger sur la motivation de vos acheteurs. Aussi, bien entendu, présenter et bien maîtriser l'analyse comparative du marché de la propriété, de la valeur de la propriété. Donc, vous avez déjà fait ce travail quand vous avez échangé, quand vous avez défini le prix qui a été inscrit sur la promesse d'achat avec votre client acheteur. Donc, d'être capable, c'est important de pouvoir formuler, vulgariser, être capable de transmettre l'information qui vous a amené à justement déposer un prix sur la promesse d'achat. Donc, c'est bien certain que votre analyse, si vous êtes capable de venir la démontrer en statistiques, en pourcentage, en images, pour vraiment influencer le propriétaire-vendeur à la pleine réalité, à sa juste valeur pour vous aider justement à obtenir le prix hein, le plus réaliste possible pour votre acheteur. Prenez soin aussi de venir prendre note des déclencheurs qui ont stimulé vos acheteurs. Ça pourrait aider autant le propriétaire-vendeur dans sa motivation comme vous dans la négociation, de venir retenir les éléments déclencheurs qui ont emmené votre acheteur à présenter une offre. Donc, même de venir présenter ces éléments-là à vos propriétaires-vendeurs, aux propriétaires-vendeurs, ça peut aussi faire comprendre jusqu'à où votre client acheteur est prêt à aller, pas nécessairement en prix, mais au niveau de sa motivation et qu'est-ce qui pourrait l'arrêter au niveau de sa motivation durant la négociation. Alors, vous notez ses appréhensions, ses contraintes, parce que vous pourriez en avoir besoin pour encore là échanger, démontrer votre code d'éthique envers le courtier inscripteur avant même de présenter la promesse d'achat. Ça fait partie de la préparation pour aller chercher la collaboration du courtier inscripteur. Vous allez comme discuter, lui demander si vous pouvez avoir la permission du courtier inscripteur d'avoir tout le terrain de jeu pour présenter votre promesse d'achat, lui expliquer de quelle façon vous fonctionnez. Donc, c'est une façon éthiquement, professionnellement d'aller chercher la collaboration, d'aller chercher la relation de confiance. Vous avez besoin du courtier inscripteur si vous avez un courtier inscripteur, bien entendu, dans la négociation pour emmener la négociation sur un terrain d'entente commun. Je pense que d'aller chercher sa collaboration, ça pourrait être très pertinent. Ensuite, de venir expliquer justement aux collaborateurs, ben, je veux dire aux acheteurs, de quelle façon vous allez, dans votre préparation, entreprendre la négociation, ça pourrait être aussi pertinent. Deuxième étape de la négociation, je vais vous encourager fortement à venir vous présenter comme courtier collaborateur, bien entendu, si c'est le cas, si vous êtes exclusivement le courtier collaborateur, plus comme un allié, comme un partenaire, comme un intervenant qui a un intérêt commun dans la transaction, dans la représentation de la promesse d'achat. Donc, face aux propriétaires vendeurs, expliquez votre rôle, démontrez votre objectif pour que justement le vendeur puisse sentir et ressentir que vous êtes aussi de leur côté, que oui, vous représentez l'acheteur, bien entendu, que oui, vous travaillez pour l'acheteur, mais que pour arriver à un objectif commun, il faut aussi aller chercher la collaboration du courtier inscripteur et des propriétaires vendeurs et que c'est votre façon de travailler. Une façon de le faire, si vous voulez vraiment vous présenter, et ça c'est vraiment avant de faire la lecture de la promesse d'achat, racontez l'histoire de votre acheteur, expliquez au propriétaire vendeur comment est-ce que vous avez connu l'acheteur, comment est-ce que vous avez commencé la démarche, où était l'acheteur avant de prendre une décision, pourquoi il a pris cette décision, pourquoi il s'est arrêté sur la maison des propriétaires vendeurs que vous avez en face de vous. Est-ce qu'il a hésité entre cette maison ou une autre maison? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui faisait son hésitation? Expliquez-lui votre processus de présentation pour que vous puissiez garder le contrôle justement sur la présentation de la promesse d'achat. Mentionnez que vous avez un dossier tout préparé justement, que vous avez pris soin de préparer un dossier qui va venir répondre à toutes les questions après la lecture de la promesse d'achat. Alors, si jamais le propriétaire a des questions, que ce soit sur le prix ou d'autres parties de la promesse d'achat, de le rassurer comme quoi que vous avez pris soin de monter un dossier pour répondre à toutes les questions. Puis, de lui demander aussi que dans votre processus, justement laisser la place à la lecture de la promesse d'achat, puis que c'est juste à la fin finalement que vous allez pouvoir répondre aux questions, mais que durant la lecture, juste de prendre des notes, d'avoir pris soin justement dans la préparation de faire des copies de la promesse d'achat et d'avertir les vendeurs qui vont pouvoir prendre des notes durant votre lecture et que c'est juste après la lecture que vous souhaiteriez répondre à leurs questions. Une chose bien importante sur la deuxième étape, que moi je considère très importante dans la deuxième étape, qui vient justement justifier de vous présenter comme étant un allié, c'est de faire comprendre aux propriétaires vendeurs que votre objectif, c'est de réaliser les objectifs de tous et chacun, de tous les intervenants de la transaction. Que vous, votre intention, c'est d'arriver à bien représenter votre acheteur, à l'aider à prendre une décision pour acheter cette maison, mais que, en tant que courtier professionnel, vous avez aussi un intérêt de venir aider les vendeurs à prendre une décision, une bonne décision pour réaliser la vente de leur maison. Une phrase, quelques mots, juste leur dire que vous avez tous un intérêt commun puis que vous souhaitez participer à l'objectif commun. Comme par exemple, vous, monsieur, madame, propriétaire, vendeur, vous voulez vendre votre propriété au meilleur prix, aux meilleures conditions. Mes acheteurs souhaitent acheter cette maison. C'est la raison pourquoi je suis ici avec une belle offre d'achat. Puis nous, les courtiers, inscripteurs, le vôtre et moi comme collaborateurs, mais on gagne notre vie comme ça. Donc, on est sûr et certain que tous et chacun, on a un intérêt commun puis vous pouvez compter sur moi et vous pouvez me faire confiance que je vais faire tout en mon pouvoir pour réaliser les objectifs de tous et chacun. Croyez-moi, quand vous présentez votre façon de fonctionner, votre intention avant de faire la lecture de la promesse d'achat, le propriétaire vendeur va sentir une sorte d'assurance, de relation de confiance. Il va y avoir une espèce de langage non-verbal où il va avoir vraiment plus envie de travailler avec vous que de travailler sur son côté, plus en mode confrontation. Je trouve que c'est une partie qui, moi, m'a beaucoup servi durant mes années de carrière à présenter des promesses d'achat. Troisième partie de la stratégie de négociation gagnante-gagnante, demander au moment opportun, donc au moment où ça va être pertinent et avec assurance, ce que vous souhaitez gagner, ce que vous souhaitez garder dans votre négociation. Et ça, bien entendu, vous allez devoir le décider dans votre préparation à l'étape 1. Il y a des choses qui vont être pratiquement non négociables. Ça peut être la date de notaire, ça peut être la date d'occupation. Ça peut être le prix aussi. Moi, j'ai toujours pensé que c'est jamais où ça commence, qu'est-ce qui est important, c'est où ça se termine, en autant que tout le monde soit heureux, sauf qu'il y a des parties dans la négociation qui peuvent être non négociables, autant du vendeur comme de l'acheteur. Vous représentez l'acheteur, donc essayez de venir voir ou de venir interpréter ou de venir ressentir qu'est-ce qui est presque pas négociable pour que à la négociation, quand il va y avoir un moment opportun d'en discuter, que vous puissiez avec assurance venir affirmer que cette partie de la négociation, vous avez besoin de la gagner, mais que d'autres parties pourraient faire le compromis, mettre de l'importance sur, des fois c'est pas grand-chose, c'est une ou deux parties, des fois c'est une seule, mais de vous préparer à gagner les parties qui ne sont pas finalement négociables, et pour pouvoir les gagner non négociables, il faut être capable de les demander avec assurance et au moment opportun, et vous allez devoir le préparer pour être capable de le demander. Donc, ce qu'on nous propose pour être capable de le demander avec assurance, c'est de pouvoir présenter ce que vous voulez garder, donc ce qui n'est pas négociable, dans la mesure du possible où vous êtes capable de donner des choix, d'offrir des alternatives de même qualité, par exemple. Donc, dans la mesure du possible, s'il y a quelque chose que vous voulez garder, offrez au moins des choix ou des alternatives de qualité ou équivalentes pour garder ce que vous voulez garder avec assurance. Faites votre présentation à personne. Hein, s'il y a des choses qui sont non négociables, vous allez avoir beaucoup plus de chances quand vous êtes en personne. Je sais que dans l'immobilier, il y a des fois, on n'a comme pas le choix pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, je trouve ça déplorable, à moins qu'on ait vraiment pas le choix là, de représenter un client puis de pas se présenter en personne pour le représenter. Bon, je suis pas ici pour juger puis condamner encore une fois, mais le plus possible, à toutes les fois, et le plus souvent possible, dans la majorité du temps, oui, j'en mets beaucoup, hein, je mets de l'emphase, représentez votre client en personne. Soyez concis dans votre façon de présenter votre promesse d'achat. Mais ça, de toute façon, si vous êtes bien préparé, il n'y aura pas de problème. Vous allez avoir une méthode, étape par étape, vous allez être concis. Entraînez-vous à prendre un ton assuré. Hein, quand on n'a pas d'expérience, des fois, on manque de confiance. Pratiquez-vous à présenter votre offre d'achat. Puis avec le temps, on a moins besoin de se pratiquer parce qu'on a une méthode. Puis, quand ça fonctionne pas, ne vous sentez pas personnellement visé, surtout durant la négociation. Donnez l'impression que, bon, vous allez peut-être pouvoir revenir avec autre chose, mais ne vous sentez pas personnellement visé s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez pas avoir tout le contrôle. C'est quand même pas vous qui décidez en bout de ligne. Vous êtes l'intermédiaire et vous cherchez à influencer, mais influencer dans l'intérêt de toutes les parties. C'est ça votre rôle finalement. Quatrième étape, accepter les pauses. Et il y a un proverbe, je ne sais pas d'où il vient ce proverbe ou la citation, qui dit qu'en négociation, le premier qui parle perd. Oui, je répète, vous l'avez sûrement déjà entendu parler, le premier qui parle perd. C'est une grande stratégie et croyez-moi, en négociation, c'est pas tout le temps évident d'entendre le silence, que même si le silence est de 10 secondes, 10, 15, 20 secondes, peu importe, il faut être capable d'accepter les pauses au moment venu dans une négociation. Alors, la pause la plus importante, à mon avis, c'est quand vous avez terminé de faire la lecture de la promesse d'achat. C'est la plus importante. De toute façon, vous avez déjà préparé le terrain. Vous avez déjà avisé le courtier inscripteur de votre façon de fonctionner. Vous lui avez déjà mentionné qu'après la lecture de votre promesse d'achat, ça sera à lui, le courtier inscripteur, de peut-être prendre la relève en posant des questions. Vous avez un dossier pour répondre aux questions. Vous êtes capable de répondre aux questions sans votre dossier nécessairement. Et vous avez avisé le propriétaire vendeur qu'après la lecture, vous allez attendre la période de questions. Donc, compte tenu que vous avez déjà fait cette préparation-là, vous ne devriez pas avoir de problème à respecter le silence après avoir fini la lecture de la promesse d'achat. Bon, parfois, on a un malaise, on n'est pas sûr, surtout par rapport au prix ou aux conditions, on a un petit peu peur qu'on soit offusqué. Soyez assuré, soyez confiant, puis à partir du moment où vous avez présenté votre promesse d'achat, zip, silence, silence total, et vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps avant que soit le courtier inscripteur ou le propriétaire vendeur intervienne avec la parole, parce qu'il y a personne, ni vous, ni moi, ni ce qu'il y a autour de vous qui sont confortables dans le silence en présence des personnes, surtout dans un concept de négociation. Fait que soyez pas inquiète, ça prendra pas beaucoup de temps qu'il y a quelqu'un qui aura peut-être pas compris, la première personne qui parle perd. Alors ça, c'est vraiment une stratégie importante. Essayez-le, vous allez voir, vous allez attendre les questions. Ensuite, savoir, la dernière étape, la cinquième et la dernière étape, savoir quand prendre des congés. Bon, je sais qu'en négociation, dans l'immobilier, entre les courtiers, parmi les clients, il y a comme une tendance, plus souvent qu'autrement, puis plus aujourd'hui, que dans mon temps ou dans mes premières années quand je faisais de l'immobilier. On a comme une habitude courante, ça se faisait là, j'ai connu ça moi aussi, mais il y a une habitude courante qu'à partir du moment où on a présenté la promesse d'achat, il va y avoir comme une espèce de systématique, bon ok, merci de ta présentation, puis bon tu peux partir, puis quand on aura terminé de jaser, moi et mes clients, on t'appellera. Moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que bon, je sais qu'on n'a pas toujours le contrôle, mais je trouve ça quand même dommage que vous ne puissiez pas participer à la négociation finalement, aux interrogations, aux questionnements. Bon, peut-être qu'il y a des choses que le propriétaire ne veut pas parler avec vous, ça je comprends ça, mais je me rappelle à l'époque où il n'y a pas si longtemps, on pouvait comme aller dans une pièce à côté, puis bon, on pose des questions si on n'est pas très à l'aise sur le sujet, puis on revient. Mais le plus possible, inviter hein, le propriétaire vendeur et le courtier inscripteur à poser des questions, à ce que vous puissiez continuer à intervenir pour avancer hein, dans la négociation. Mais il se pourrait que, bon, au moins si vous avez gagné un peu de ce terrain-là, qu'on vous demande de quitter. Dans l'idéal, si vous devez justement prendre congé, et c'est ici qu'il faut savoir prendre congé, hein, à partir du moment où vous êtes certain que vous avez répondu aux questions, que vous avez comme déballé finalement ce qu'il y avait dans votre dossier de préparation, je pense que de prendre congé quand il le faut, c'est correct. Donc, finalement, savoir prendre congé, c'est pas systématiquement parce que là, vous avez terminé la promesse d'achat, puis qu'on vous invite à la sortie parce que là, vous avez terminé, puis qu'ils veulent bon, être toute seule entre le courtier inscripteur et les propriétaires vendeurs. Moi, je pense que c'est pas ça qu'il faut accepter systématiquement. Il y a des exceptions à la règle, j'en conviens, mais au moins essayez de venir voir qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus dans les questions qu'on pose, dans les interrogations. Invitez le courtier inscripteur le plus possible à venir reprendre point par point, mais les points les plus importants, les majeurs de la promesse d'achat, on le sait, hein, il y a le prix, il y a la date de notaire, la date d'occupation, les inclus, les exclus, la condition du financement, il y a peut-être 5 ou 6 points majeurs hein, dans l'offre d'achat qui peut être revu avant que vous puissiez prendre congé pour justement encore influencer ou justement mesurer la réflexion quand vous ne serez pas là entre le propriétaire-vendeur et le courtier inscrit. Donc, pour moi, savoir prendre congé, c'est de vous assurer, avant de prendre congé, que toutes les questions qu'on peut avoir au sujet du contenu de votre promesse d'achat a été répondues, qu'il n'y aura pas d'interprétation, puis que tout ce que vous avez présenté a été bien compris dans l'avantage de toutes les parties, puis que dans le but, bien entendu, d'aller chercher hein, l'objectif ultime, la meilleure réponse du propriétaire-vendeur dans l'intérêt de votre client-acheteur proprement dit. Alors voilà, c'était court pour la troisième partie, je vous ai gardé ça court, mais c'était une partie très importante. On pourrait, au niveau de la stratégie des négociations, avoir une demi-journée même. Je connais des formations qui sont données une journée entière pour la négociation, peut-être à plus grande échelle. Mais aller chercher les notions importantes pour la négociation, c'est quelque chose qui se pratique, que vous allez pouvoir adapter à votre personnalité, qui va vous donner de la force, qui va vous donner de la confiance. Je pense que c'est pertinent. Et ceci termine justement notre vidéo de formation Code d'honneur pour acheteur avec la troisième partie. Et j'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cette vidéo. Et en terminant, j'ai encore envie de vous dire, oui, merci. Merci du fond du cœur d'être le ou la professionnel de l'immobilier qui contribue à un monde meilleur dans notre industrie avec intégrité et détermination et qui visait l'excellence sur le chemin des immopreneurs. Alors, à tout le monde, je vous dis à bientôt, j'espère, et j'ai bien hâte de vous revoir. Au revoir, à bientôt.